Vatican II, le Concile en question, avec Monseigneur Marc Hayet.
Donc nous avons, dans la dernière catéchèse, répondu à la question, de manière évidemment qui n'est pas exhaustive, quelle est l'intention du Concile ? Et je voudrais juste, pour résumer ce qui a été dit, utiliser les mots de Monseigneur Paul Gouillon, qui fut précisément l'évêque de Bayonne au moment de l'ouverture du Concile, et qui, dans sa lettre pastorale qu'il adressait à ses diocésains pour le carême 1962, disait que le but immédiat du Concile, ce fut la rénovation de l'Église pour la rendre plus apte à sa mission d'évangélisation et de salut universel, et son but lointain fut l'unité des chrétiens. Voilà, qui résume bien ce que nous avons dit dans la dernière catéchèse. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est la question suivante. Que veut-on dire quand on parle de Vatican II comme le concile de l'aggiornamento, hein, on connaît cette expression, bien sûr, qui a fait florès depuis le concile Vatican II et qui a souvent été utilisée dans les commentaires du concile. Aggiornamento, qui est évidemment une expression italienne. Vous savez bien, comme disent les Italiens, justement, qui est difficile à rendre en français, « traduttore, traditore », ça veut dire « celui qui traduit », qu'il prenne garde de ne pas trahir le sens de ce qu'il traduit. Toujours difficile de traduire dans une autre langue une expression qui est propre à une langue spécifique. « Aggiornamento », si on le traduit de manière littérale, ça veut dire « mise à jour ». Au fond, le Concile Vatican II, c'est vrai, a promu, d'une certaine manière, une mise à jour. Mais encore faut-il bien comprendre cette expression, qui ne signifie pas une remise en question. Comme l'auraient voulu un certain nombre de courants, y compris dans l'Église, et qui continuent d'ailleurs de tracer leur sillon à 60 ans de distance, qui auraient voulu que ce soit finalement cet aggiornamento, une mise au goût du jour, qui signifierait finalement une adaptation à l'époque, une adaptation aux idéologies et aux modes du moment. C'est intéressant parce que je viens évidemment de lire les lettres de nos catéchumènes adultes de cette année, 2026, et un jeune catéchumène qui a 19 ans, vous voyez, il est très jeune, et il s'est posé la question du baptême déjà depuis un an ou deux. Et il dit que, après avoir vraiment rencontré le Christ, parce qu'il cherchait la vérité, il a grandi dans une famille qui n'est pas croyante, comme beaucoup de nos catéchumènes aujourd'hui, qui sont d'ailleurs pour la plupart jeunes, et qui viennent de manière assez surprenante frapper à la porte de l'Église. Et il a grandi dans une famille qui n'était pas croyante. Donc il n'a pas entendu parler de Jésus en famille. Et d'ailleurs, il n'a jamais participé à la messe. Et il cherchait, à un moment de doute sur sa vie, quel sens donner à sa vie, et il cherchait une vérité absolue qui puisse vraiment répondre à ses interrogations les plus existentielles. Il avait vu des vidéos sur Jésus-Christ, il y avait été intéressé, mais pas prêté attention plus que ça, même s'il avait une sensation en lui qui lui disait qu'il y avait quelque chose d'important pour lui. Alors, un jour, j'allais dire de guerre lasse, il avait 17-18 ans, hein, il décide de prier, et de prier Jésus-Christ, qu'il ne connaît pas, pour répondre à cette question de cette vérité absolue. Il fait cette rencontre. Il découvre que le Seigneur est vraiment celui qui, comme il le dira dans l'Évangile, est le chemin, la vérité et la vie qui donne un sens plénier à son existence. Il fait cette rencontre. Et en même temps, il dit, mais au fur et à mesure que j'entendais parler des enseignements de Jésus, je me disais, je ne suis pas d'accord avec ces enseignements, parce que c'est une autre époque, disait-il. Jusqu'au jour où, par lui-même, il trouve dans l'Évangile cette parole qui lui fait comprendre de manière certaine que l'enseignement du Christ est une vérité immuable. Il entend cette parole de Jésus qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Vous voyez ? Les paroles de Jésus ne peuvent pas être adaptées et interprétées selon les idéologies et les modes du moment. parce que cette vérité est absolument immuable. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause, lorsqu'on parle d'aggiornamento, comme certains, malheureusement, ont voulu et le veulent encore, ce dépôt de la foi qui a été transmis si fidèlement depuis 2000 ans. Au fond, ce vocable « aggiornamento » veut exprimer la volonté de réforme, qui caractérise l'intention du pape Jean XXIII. Il s'agit en effet de mettre à jour, au sens de mettre en lumière la forme originelle de l'Église, qui peut-être, peut-être qu'on pourrait être tenté de réduire ce mouvement à un simple retour aux sources, mais c'est vrai qu'il était important au moment du Concile. Il faut savoir qu'il était précédé par tout un mouvement biblique, un mouvement patristique, où on a essayé de revenir aux sources de la théologie de l'Église, qui est appelée à transmettre cette vérité de la foi. Les sources de, de l'enseignement de l'Église, c'est évidemment l'Écriture sainte, et c'est les pères de l'Église qui sont les premiers commentateurs plus proches de l'Évangile que nous, évidemment, dans le temps, et souvent dans leur disposition intérieure, dans un monde païen dans lequel ils se sont même convertis, les sources de la doctrine de l'Église, voyez. Donc ça veut dire mettre en lumière la forme originelle de l'Église, sans pour autant être tenté, dans ce retour aux sources, de faire tabula rasa, comme certains ont voulu le faire, de tous ces développements ultérieure. Il s'agira essentiellement de purifier la forme fondamentale de l'Église telle qu'elle était voulue par son fondateur, de revêtements parfois qui sont, c'est vrai, dans, à travers son histoire, trop liés aux différentes époques qu'elle a traversées. Un mouvement de réforme donc qui est parfaitement légitime. Ce fut tout l'enjeu de ce travail d'aggiornamento du Concile, mais où il fallait procéder à une délicate alchimie entre le retour aux sources pour redécouvrir la forme originelle qui peut être cachée sous des revêtements qui ne sont pas complètement liés intrinsèquement à cette forme originelle de l'Église, et le développement, car il y a un développement nécessaire. L'Église est un corps organique, et si elle est un corps organique, elle progresse nécessairement à travers le temps. C'est tout ce que l'on appelle le développement du dogme, dont Saint John Henry Newman, qui vient d'être déclaré docteur de l'Église par le pape Léon XIV, nous a donné une explicitation tout à fait pertinente pour aujourd'hui, en se fondant d'ailleurs sur des écrits comme celui de Saint Vincent de Lérins au IVe siècle, dans son Comminutorium, dans lequel il dit l'homme est un être qui est toujours le même depuis l'embryon jusqu'à sa mort, même s'il a évidemment beaucoup évolué entre l'embryon, l'enfant qui vient de naître, l'adolescent, l'adulte et le vieillard qui est prêt de mourir. Mais c'est toujours le même, vous voyez, à travers tous ces changements qui ont affecté son développement. Dans son discours d'ouverture de la deuxième session, le 29 septembre 1963, le pape Paul VI apporte une confirmation de cette volonté d'aggiornamento. En effet, après avoir précisé l'objet du Concile, qui est l'Église, on a bien compris, il reprend l'objectif principal assigné au père conciliaire par Jean XXIII, le renouveau de l'Église. Il précise évidemment qu'il s'agira d'abord d'un renouveau intérieur de l'Église, et puis, en fonction de ce renouveau intérieur, eh bien celui de son organisation extérieure, institutionnelle, juridique ou rituelle. Je le cite, « Le renouveau visé par le Concile ne consiste donc pas en un bouleversement de la vie présente de l'Église, ni en une rupture avec sa tradition, dans ce que celui-ci a d'essentiel et de vénérable, mais elle est plutôt un hommage rendu à cette tradition, dont l'acte même qui veut la débarrasser des formes caduques et défectueuses pour la rendre authentique et féconde. » Il s'agit toujours de ramener l'Église à sa forme parfaite.